La musique de l'ascenseur, chapitre 24. Les jours se succédaient dans la monotonie d'une vie que seuls les sourires de mon fils égayaient. Toutes ces années, je me suis tue. Silencieuse, je portais ma croix. Joël grandissait. J'étais partagé entre la crainte et l'amour. C'est toujours ce dernier qui prenait le dessus. Une inquiétude m'habitait, celle de voir mon fils ressembler à son père. Je ne pouvais l'envisager. Parfois, ses mimiques confortaient mes doutes. La tristesse me gagnait et mes nuits s'habillaient de noir. Je subissais la menace. Dans mes cauchemars, je voyais mon gosse englouti dans un fleuve rougeâtre. Tous les châteaux d'eau du pays déversaient cette vinasse sur nous. Les flots déchaînés emportaient la chair de ma chair. Je me réveillais, les muscles endoloris par les crispations, afin d'empêcher mon fils de se noyer dans les vagues en furie. Du rêve à la réalité, il suffisait de passer au père de Joël. Il commençait dès le matin autour d'une chopine de vin blanc. L'odeur de l'homme et de son breuvage me dégoûtait davantage. Subir, tel était mon destin. Il écoutait attentivement les propos de son interlocutrice. Il n'intervint pas. Il la laissa s'exprimer, comme elle ne l'avait sans doute jamais fait. Il compatissait en silence. Ce qu'il entendait le sidérait. La vie de couple de cette femme s'apparentait à de l'esclavage et de la résignation. Comment peut-on accepter de telles situations sans se rebeller, sans alerter le voisinage ou la famille? La réponse tient en deux mots, la dignité. À l'évocation de la jeunesse de son garçon, son visage là s'habilla d'un grand sourire. Un rayon de soleil venait de pénétrer son cœur meurtri. Elle racontait les premiers pas de Joël, ses premières bagarres et son entrée au collège. Tout cela lui procurait une joie intense. Elle parlait à en perdre haleine. L'obscurité enveloppait le quartier. Les lampadaires ne tarderaient pas à diffuser leur lumière orangée. Il n'osait l'interrompre. La thérapie de Madame Lambert passait par là. Elle aborda l'adolescence de Joël, ses difficultés avec les filles à cause d'une timidité maladive. L'ambiance à la maison devint intenable. La violence s'installa avec son cortège de coups et de blessures. Le fils rejeta l'attitude abjecte de son père et se rebella. Un jour, il assomma son géniteur avec une bouteille. Elle réussit à limiter les dégâts en inscrivant son fils en pension dans une institution religieuse. Les deux hommes se croisaient, mais n'avaient plus rien à se dire. La rupture était consommée. Joël, de plus en plus taciturne, se referma sur lui-même. Il ne riait plus. Il ne jouait plus et se murait dans sa chambre tous les week-ends. Il se réfugia dans ces disques que vous voyez partout aujourd'hui. Le jazz nous remplaça peu à peu. Il prit toute la place, même la mienne. Notez, inspecteur, je ne lui en veux pas au jazz. Il exprime tous les sentiments. Joël en avait besoin. Je me souviens du mois de janvier 1958. Par un après-midi, je me suis réfugié dans un cinéma de la ville, le Vox. Il n'existe plus. Actuellement, un complexe commercial propose ses vitrines aux chalands. J'ai vu deux acteurs inoubliables, une sublime Jeanne Moreau et Maurice Ronet qui véhiculaient un inquiétant mal de vivre. La bande musicale du film donnait la chair de poule. Un solo de trompette diabolique rajoutait à l'atmosphère noire de la situation. La bouteille de jus de fruits se vidait. Les lumières illuminaient la cité. Cette femme lui confessait son existence. Il trouvait la mère du défunt pathétique. Ce récit le captivait. Il lui permettait de comprendre un peu plus l'histoire qui le préoccupait. La musique du film fascina la mère et ensorcela le fils. Il analysait ce comportement avec perplexité. Joël Lambert plongea dans l'univers de Miles Davis 25 ans plus tard et ne le quitta plus jusqu'à la fin. Elle évoqua la fin de l'épave, considérant l'agonie de son mari comme l'ultime cadeau de la nature. Lorsqu'elle parla de lui, le ton se fit plus ferme. L'œil sec n'avait plus de tendresse. L'enquêteur sentait monter cette haine accumulée durant tant d'années. Elle traça un portrait au vitriol du père de son enfant. Pendant qu'il perdait ses dernières forces dans l'alcool, elle puisait les siennes dans l'espoir de lendemain meilleur, à croire qu'elle n'attendait qu'un ultime soupir pour enfin se libérer. Une phrase marqua l'inspecteur. Il trouva qu'elle cachait autre chose. Jacqueline Lambert déclama comme une révélation : Lorsque la vermine vous gagne, il faut accélérer le nettoyage. Que voulaient dire ces quelques mots ? Boucher se demanda quelle signification leur donnait, et si le décès de son époux recelait lui aussi un lourd secret. Il ne lui demanderait pas d'explication ce soir. Le moment ne s'y prêtait guère. Fallait-il remuer encore de la boue dans cette famille décimée ? Elle s'aperçut du changement d'attitude de son interlocuteur. Elle l'interrogea sur ce qui provoquait ce haussement à peine perceptible de ses sourcils. Il fut interloqué par l'acuité visuelle de son hôtesse. Décidément, les femmes possèdent un sixième sens, se dit-il. Ne sachant quoi lui répondre, par politesse il se leva, il lui assura qu'il s'agissait simplement d'un tic nerveux. Elle ne fut pas dupe, mais en resta là.